Donc, on va prier pour débuter et après ça, on passe à l'enseignement du jour. Seigneur, encore une fois, nous nous approchons de toi ce matin en ayant cette assurance que tu es présent parmi nous et que tu répands ta grâce sur nous. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, de ton assistance, afin, Seigneur, d'être instruits, d'être rassasiés, d'être abreuvés par toi. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles de défi que tu nous as lancées cette semaine. Et merci, Seigneur, de prendre le temps de nous former, de nous façonner, afin, Seigneur, que de façon individuelle comme de façon commune, nous puissions nous enraciner en toi et croître comme tu le désires. Et que nous soyons pour toi, Seigneur, un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet, Seigneur, de louange. Que nous puissions être entre tes mains des instruments utiles à l'avancement de ton royaume, selon non pas nos pensées, mais ta pensée. Selon non pas notre sagesse, mais ta sagesse. Alors en toute chose, Seigneur, que ton nom soit élevé, que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent ce matin, durant toute cette journée et jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors on ouvre dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. La Bible nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, on disait en début de semaine qu'ici, c'est une exhortation qui, à la base, est adressée aux Juifs qui se sont convertis. Pierre parle à ses frères en la foi, de nouveaux convertis judaïques à la base, et leur dit: voilà, maintenant que vous êtes intégrés dans l'Église, il y a des choses qui vont vous surprendre, vous étonner, voire même vous choquer. Et il dit, parmi celles-là, voici la première: vous êtes une race élue. Et cette race, qui a été expliquée donc lundi matin, c'est un nouveau départ pour l'Église, une nouvelle genèse pour le corps de Christ, pour le peuple de Dieu. Et dans ce peuple, on n'est pas exclusivement juif. Donc, descendant biologique et naturel d'Abraham, mais on regroupe aussi toute autre personne qui a cru dans le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le Sauveur et comme étant le Seigneur de l'humanité. Et ici, donc, on voyait que c'est un nouveau départ avec une nouvelle race, et cette race, c'est l'Église. J'utilise le terme race, même si c'est un terme qui me déplaît un peu, parce que la version Louis II utilise une telle formule. Mardi, on a vu qu'on était un sacerdoce royal, que nous étions à la fois appelés à être sacrificateurs sur le temple de l'Esprit-Saint que notre corps représente, mais de surcroît à cela que nous sommes aussi appelés à être membres, partie prenante de la famille royale, que nous sommes co-héritiers avec Christ, que nous sommes des princes, des princesses dans le royaume de Dieu, et que au lieu d'avoir un service qui était autrefois restreint au niveau de la famille royale à des membres de la tribu de Juda, et au niveau de ceux qui servaient le culte, servaient l'Éternel au niveau de la famille de Lévi, ici on a ouvert tout cela, non pas simplement à ces deux tribus, mais à l'ensemble du peuple d'Israël, et de surcroît à cela, à toute personne qui ferait effectivement de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Il devient partie prenante de cette race, de cette peuplade, de cette nation de sacrificateurs et d'enfants du roi des rois. Mercredi, on a vu que nous étions une nation sainte, le terme ethnos, qui était mentionné ici, qui parlait d'une multitude, d'une compagnie militaire ou de troupes militaires et de gens qui étaient regroupés avec de mêmes mœurs et de mêmes coutumes. Et on a vu effectivement que nous avions tous et chacun un même mode d'emploi qui est la parole de Dieu, qui sont les préceptes de Dieu. Et c'est notre code de conduite. Et ce code de conduite se doit d'être respecté parce qu'il fait partie prenante de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et on voyait que dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle identité qui était la nôtre, nous étions aussi appelés à vivre une nouvelle unité et une appartenance au peuple de Dieu qui prime au-dessus de toute autre appartenance. Et je prenais l'exemple de Montréal que je chéris profondément, mais avant de dire que je suis un Montréalais, je suis tout d'abord et principalement un enfant de Dieu. Et que cette appartenance prime au-dessus de toute autre origine, vécu, expérience, passé. Et hier, on a vu donc que nous étions un peuple acquis. On a rappelé comment le Seigneur nous avait acquis, comment il avait fait de nous sa propriété. Et on a vu l'image de Boaz qui va acquérir les droits sur Ruth afin de la marier. Et on disait à l'instar de Boaz, Dieu nous a tellement aimés qu'il a aussi payé le prix nécessaire pour faire de nous son épouse, son Église, le corps de Christ. Et aujourd'hui, donc, on continue et on conclut avec la dernière partie du verset qui dit « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ici, comme base, on doit comprendre que Pierre est en train d'expliquer « Voici, vous êtes une nouvelle race. » Vous êtes un nouveau sacerdoce royal, vous êtes une nouvelle nation sainte, vous êtes un peuple nouvellement acquis, et tout cela a été fait afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc cette nouvelle identité que nous avons en Christ, elle est d'abord faite ou elle est d'abord distribuée, accordée ou octroyée, afin que nous annoncions les vertus de Dieu. Vertu, c'est le terme arete, qui s'écrit A-R-E-T-E, A-R-E-T-E, qu'on retrouve 5 fois dans le Nouveau Testament, et qui parle de cours de pensée, qui parle d'action, de sentiments vertueux, qui parle d'une excellence morale, comme pourrait l'être la modestie, l'honnêteté, la franchise, la pureté. Donc ici, ce qu'on doit comprendre tout d'abord avec cette notion de vertu, c'est que notre identité en tant qu'enfant de Dieu doit correspondre à la nature même de notre Dieu. Si notre Dieu est d'une manière, alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre nouvelle identité que représente l'Église et que représente notre accession à la famille de Dieu, nous devrions manifester ces mêmes caractéristiques que Dieu. Et parmi les caractéristiques du Seigneur, qu'il a d'abord exercées envers nous et qui nous a marquées et transformées, on peut parler d'un amour profond, d'un amour maximal, mais de surcroît à ça, d'un amour rempli de compassion, de miséricorde et de grâce. Donc, notre identité en tant qu'enfant de Dieu devrait aussi manifester cet amour rempli de compassion et de grâce. Et j'aborde cet aspect particulier parce que dès la première journée de cette semaine, on a parlé de tout ce qui pouvait être différenciation ethnique, d'origine, de race, de culture ou autre. Et on a vu que nous n'étions plus ni juifs ni grecs, que maintenant nous étions un amalgame de ces anciennes appartenances qui étaient nôtres et qu'on a fait fi de ces différences-là pour venir à être un peuple à part entière, un peuple soudé, fusionné par Dieu pour être son peuple qui regroupe différentes couleurs, qui regroupe différentes langues, qui regroupe différentes coutumes, mais qui ont des points communs comme étant Christ notre Sauveur et unique Sauveur, Christ comme notre Roi et unique Roi, et la parole de Dieu comme notre guide et comme notre mode d'emploi pour tous les jours. Alors, pour effectivement représenter Dieu dans ce que nous avons appris cette semaine, il nous faut nous aussi avoir cet amour et cette compassion, même envers ceux qui ne nous ressemblent pas, et faire cet effort. Et on se rappelle, Pierre ici parle à des Juifs qui ont de la misère à accepter, à recevoir, à embrasser cette nouvelle notion que nous ne sommes plus les seuls à être récipiendaire de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas les seuls à être partie prenante du peuple de Dieu, mais nous accueillons parmi nous l'Église dans son ensemble, avec tous ceux qui sont juifs convertis à Christ, mais avec tous ceux qui d'origine n'étaient pas juifs et qui d'origine auraient dû être exclus de notre milieu. Ce qui ne veut pas dire que Dieu les avait exclus. On va en reparler de cela tout à l'heure. Mais les Juifs avec cette conception que eux seuls comptaient face à Dieu. Et pour eux, ça leur prenait donc une identité qui était façonnée, qui était modelée, qui était renouvelée pour cadrer dans cette nouvelle identité qu'était l'Église. Et pour nous, en tant que croyants, régulièrement, c'est la même chose, surtout lorsqu'on vient à avoir une certaine expérience dans le cheminement avec Dieu, dans l'Église en tant que telle, ben régulièrement, on commence à se dire, voici ce qu'est un chrétien, voici ce qu'est un enfant de Dieu, voici ce qu'est l'Église. Et quand quelqu'un se joint à nous qui ne cadre pas parfaitement avec ces critères-là, on a tendance à le regarder un peu bizarrement, jusqu'à ce qu'il porte la même chemise que nous, jusqu'à ce qu'il porte la même forme de pantalon que nous, jusqu'à ce qu'il porte ou qu'il ait la même coupe de cheveux que nous, et jusqu'à ce qu'il se rase de la même manière que nous, voire même qu'il mange, qu'il parle, qu'il chante, qu'il parle avec un accent particulier qui fait que maintenant, effectivement, il est des nôtres. Mais jusqu'à ce qu'il ne cadre avec chacun de nos critères, ben on le regarde un peu comme l'étranger dans la place. Alors que Dieu ne l'a pas fait pour nous, alors que Dieu nous a accueillis avec amour, alors nous aussi, lorsque on veut effectivement annoncer les vertus de Dieu, lorsqu'on veut bien représenter les vertus de Dieu, notre caractère, notre personnalité doit cadrer avec la personnalité et la nature même de Dieu. Toujours dans le terme arrêté, notre identité doit correspondre à la nature de notre message. Si notre message parle d'inclusion, si notre message parle de grâce, si notre message parle d'amour, si notre message parle de douceur, alors nous aussi devons faire preuve de ces mêmes caractéristiques, parce que sinon, ce que dit nos lèvres ne correspond pas à ce que nous faisons de nous-mêmes, et nous sommes alors tout simplement des gens qui font semblant. Donc on doit prier que non seulement notre message ait une portée, mais que le caractère qui véhicule ce message, que la personne qui véhicule ce message, ait aussi les mêmes caractéristiques que son Seigneur et que le message de son Seigneur. Maintenant, on va passer au terme annoncé, exagello, E-X-A-G-G-E-L-L-O, je répète, E-X-A-G-G-E-L-L-O, qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, une seule fois en grec, et c'est effectivement ici, lorsqu'on parle d'annoncer les vertus de Dieu. Et ici, annoncer veut dire déclarer, proclamer, divulguer, faire connaître en louant et en proclamant et en célébrant quelque chose. Donc, ces nouvelles vertus qui sont les vertus de Dieu et que nous adoptons, que nous embrassons, que nous faisons nôtres, ces vertus se doivent d'être célébrées. Nous devons les proclamer et nous devons dire combien elles sont bonnes, combien elles sont merveilleuses. Donc, nous devons célébrer par nos paroles, par nos actions, cette inclusion que Dieu fait entre les différentes nations, que c'est célébré et manifesté de la joie envers cette fusion que Dieu opère entre nous et des gens qui nous étaient autrefois si différents et desquels on se tenait éloigné. C'est une célébration à marquer aujourd'hui. Dans le monde contemporain, on a différents mouvements, surtout à l'heure actuelle, qui s'élèvent contre le racisme. De tels mouvements auraient dû prendre leur essor et leur essence dans l'Église même. L'Église devrait être cet endroit de prédilection où le racisme ne règne pas. Et vous savez que malheureusement, très souvent à travers le passé, le racisme a été, ou on a tenté plutôt de justifier le racisme même à travers la parole de Dieu, en troquant la parole de Dieu, en arrachant des morceaux, en déformant le contenu de cette parole pour la faire cadrer avec des propos, avec des pensées qui étaient xénophobes et qui allaient à l'encontre de ce que Dieu prônait de toute éternité. Depuis l'Ancien Testament, et s'est manifesté par la suite dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit de prendre soin, oui, de la veuve et de l'orphelin, mais Dieu nous dit aussi de prendre soin de l'étranger. Donc Dieu prenait garde à l'étranger, Dieu se préoccupait de l'étranger, et Dieu voulait que même son peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, se préoccupe aussi de l'étranger. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes non seulement appelés à nous préoccuper de l'étranger, mais nous sommes appelés à nous fusionner, nous qui sommes tous des étrangers sur cette terre, nous qui sommes tous graciés et greffés au corps de Christ alors que nous ne le méritions pas et que nous n'étions pas initialement conviés à la chose, mais à cause de la mort de Christ, nous tous, de toute origine, nous sommes appelés à fusionner. Donc, notre message doit célébrer cette nature de Dieu qui fusionne les peuples les uns avec les autres. On passe à la deuxième partie maintenant, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Parce que nous sommes dans cette nouvelle identité d'Église, nous sommes dans cette nouvelle identité avec Christ, parce que Dieu nous a appelés à sortir des ténèbres. Le terme ténèbres ici, le terme skotos, S-K-O-T-O-S, S-K-O-T-O-S, qu'on retrouve 32 fois dans le Nouveau Testament, et qui nous parle de noirceur, de cécité, donc d'aveuglement, d'ignorance, d'opacité régnante et d'immoralité. Ici, lorsqu'on parle de skotos, on ne parle pas de péché. Le terme qui est utilisé ici, oui, en français, on parle de ténèbres et on a l'impression qu'ici, on est en train de parler de cette vie passée qui était la vie de péché. Mais ici, en fait, la notion qui est véhiculé par Pierre, c'est que Dieu vous fait sortir de votre aveuglement, Dieu nous fait sortir de notre ignorance, Dieu nous fait sortir de ces anciens concepts, paradigmes qui sont erronés. Donc, après avoir été exposé à notre nouvelle identité, après qu'on nous ait enseigné que nous sommes maintenant une créature nouvelle faisant partie d'un groupement nouveau qu'on appelle l'Église, le regroupement des enfants de Dieu, on doit comprendre que nous étions autrefois dans un aveuglement spirituel et dans une incompréhension de la volonté de Dieu pour cette humanité. Et je dis spécifiquement ces termes-là parce que très souvent, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et c'est l'erreur que font les Juifs, c'est de croire qu'ils sont eux l'unique peuple de Dieu. Ils font partie du peuple de Dieu, mais ils n'ont pas la panoplie des positions et des places dans le peuple de Dieu. Lorsqu'Abraham, et je l'ai dit plus tôt cette semaine, lorsqu'Abraham a reçu sa promesse comme quoi sa postérité serait plus nombreuse que même le sable de la mer, que le sable de la plage, qu'il ne serait pas calculable. Ici, on ne parlait pas des enfants d'Israël. Ici, on ne parlait pas du peuple juif, mais on parlait de la postérité spirituelle qui viendrait d'Abraham, postérité à laquelle toi et moi, nous étions conviés dès le départ. Lorsque Dieu fait cette promesse à Abraham, il a en pensée Florent, il a en pensée Chantal, il a en pensée Soraya, il a en pensée Ramon, il a en pensée Gaël, il a en pensée chacun d'entre nous. Donc nous tous qui avons été appelés vers la lumière, qui avons été appelés à sortir des ténèbres, nous faisions déjà partie du plan de Dieu, de la volonté de Dieu d'être partie prenante du peuple d'Israël, d'être partie prenante du peuple de Dieu, de l'Église. Alors, Pierre est en train de dire aux Juifs qui se sont convertis, « Avant, vous étiez aveugles. Maintenant, vous êtes voyants. On vous a retiré de l'ignorance pour que vous compreniez que les limites du peuple de Dieu ne se contraignent pas au peuple d'Israël, descendant naturel, physique, biologique d'Abraham. » Le terme « appelé des ténèbres » ou « appelé hors des ténèbres », c'est le terme « kaleo » pour « appeler »,« ek » hors de ou à l'extérieur de, ou d'un endroit vers un autre, et scotos, comme on l'a vu tout à l'heure, ténèbres ou ignorance, opacité. Ici, on est en train de dire que Dieu nous a appelés à sortir de cet égarement. Dieu, à un moment donné, parle à ses enfants lorsque l'Église est initiée et il dit « Voici, c'en est terminé avec ce que vous pensiez autrefois, car Dieu a tant aimé le monde. » Jésus l'a dit à maintes reprises. Il a dit « Allez par toutes les nations et allez de Jérusalem jusqu'en Samarie, jusqu'en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre pour faire de toute nation des disciples. » Alors le mandat de Jésus, le mandat qu'il donne à l'Église depuis le départ est très 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 clair, comme quoi il englobe l'ensemble des nations. Et pour ces Juifs, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de pensée. Et nous aussi, Dieu nous a appelés à sortir de notre ancienne façon de voir les choses et d'adopter la pensée de Dieu. Donc oui, il nous a appelés. Oui, il nous a invités à sortir. Mais lorsqu'on parle qu'il nous a appelés à sortir, ça veut juste dire qu'il nous a lancé l'invitation, qu'il a lancé l'exhortation, qu'il a présenté sa demande ou qu'il a dit « Voici ce que je veux de mon Église. » Qu'elle sorte de ce paradigme qui limitait le peuple de Dieu au peuple d'Israël. Et là, il est en train de dire à l'Église, Pierre est en train de dire à l'Église, ben c'est votre responsabilité de répondre oui ou non à cet appel, à cette vocation, à cette demande de Dieu. Donc, nous sommes maîtres de la réponse que nous offrons à l'appel de Dieu. Nous sommes maîtres de l'appel, de la réponse que nous offrons à l'exigence de Dieu, à ce que nous ouvrions nos horizons à toute personne et que nous ouvrions notre horizon à toute origine que pourrait avoir quelque chrétien que ce soit. Donc c'est un appel pour nous, ou c'est un appel de Dieu pour nous, mais là la question c'est quelle va être ta réponse à toi et quelle va être ma réponse à moi. Est-ce que je vais décider effectivement d'abandonner ces anciennes pensées, ces anciennes façons de faire? À un moment donné, on entend certains qui disent « Ouais, ben si tu viens de telle origine, ben alors là, tu sais louer, mais si tu viens de telle autre origine, tu sais pas adorer. Si tu viens de telle origine, tu sais apporter un enseignement, mais si tu viens de telle autre origine, ben tu as un peu plus de difficultés. » Ça, c'est vraiment garder dans nos têtes les paradigmes de l'ancienne génération et de l'ancienne culture qui était la nôtre. Nous avons été appelés à faire partie de la culture de l'Église, et dans la culture de l'Église, il n'y a pas une culture qui sait bien faire ceci et l'autre qui sait mal le faire. Il n'y a pas une culture qui adore bien puis l'autre qui adore mal, une qui loue bien puis l'autre qui loue mal, une qui enseigne bien puis une qui enseigne mal, une qui apprend bien puis l'autre qui apprend mal, une qui prêche bien puis que l'autre prêche mal. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc dans les dons, les talents que Dieu nous donne, il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous un, et sur cet ensemble que nous sommes, Dieu disperse ses dons, ses grâces et ses talents. Dernière partie pour cette semaine, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres vers, en direction de son admirable lumière. Deux termes importants ici. D'abord, admirable. Oui, ça le cachait merveilleux. Mais il y a d'autres subtilités dans le terme qui est utilisé, et c'est le terme thaumastos, donc T-H-A-U-M-A-S-T-O-S. Je répète, T-H-A-U-M-A-S-T-O-S, qui revient 7 fois dans le Nouveau Testament. Mais de surcroît à émerveillement, à quelque chose de somptueux, thaumastos veut aussi dire quelque chose où se réunissent terreur et étonnement. Et oui, cette notion pour les Juifs était terrorisante parce qu'ils y perdaient des acquis, ils y perdaient une façon dont ils avaient toujours fonctionné, on les sortait de leurs habitudes, alors c'était quelque chose qui pouvait étonner pour eux et qui pouvait faire peur. Et pour nous aussi, même 2000 ans plus tard, lorsque le Seigneur nous change certains paradigmes, quand le Seigneur change certaines façons que nous avons de penser, oui, ça fait peur. Le changement fait peur parce que le changement nous amène vers quelque chose que nous ne connaissons pas, vers quelque chose que nous n'avons encore jamais expérimenté, vers quelque chose vers laquelle on ne sait pas comment on réagira. Donc le changement fait peur, mais c'est pas parce que le changement fait peur que le changement ne s'impose pas. Et ce changement de paradigme, de pensée, où nous devenons inclusifs par rapport à toute nation et à toute origine, ce changement-là est non négociable. Ça fait partie de l'Église. L'éternité va se passer devant une foule avec des gens qui étaient d'origine diverse. Jean en parle à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, où il dit que devant le Seigneur était rassemblée une foule qui originait de plein d'endroits, de plein de races, de plein d'ethnies, de plein de langues, de plein de nations. Donc nous, si effectivement cette pensée de l'éternité culture ou de multi-ethnicité comme étant tous réduits maintenant à une seule identité qui s'appelle l'Église. Alors oui, ça peut te faire peur, mais c'est pas parce que ça te fait peur que tu as le droit d'attendre et de t'opposer. Dernier point, fausse, c'est le terme lumière, son admirable lumière. Le terme fausse ici va parler d'une lumière qui est très 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 forte, qui éblouit, qui resplendit comme un feu majestueux ou comme un faisceau de lumière très 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 puissant. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Cette lumière, comme toute autre lumière lorsqu'on quitte les ténèbres et qu'on vient vers une lumière, ça nous prend un certain temps pour s'adapter. Et oui, ça a pris un certain temps au peuple juif et aux chrétiens de cette époque-là pour comprendre que la façon de faire serait différente. Mais à un moment donné, lorsque mes yeux ne s'habituent pas, c'est peut-être parce que je ne veux pas qu'ils s'habituent non plus. À un moment donné, je peux feindre une adaptation qui perdure et qui perdure et qui perdure. Et en fait, c'est simplement une opposition tacite à la volonté de Dieu. Quand le Seigneur nous amène vers sa lumière, soit nous nous adaptons, et il comprend le temps que ça peut prendre pour que nous nous adaptions, mais personne ne peut faire semblant devant Dieu. Il sait exactement quand tu es encore en mode d'adaptation ou quand tu es simplement en bon québécois. Et ceux qui sont à l'extérieur, vous ne comprendrez peut-être pas, mais peut-être que tu es tout simplement en train de boquer. En France, on dirait tu as la tête dure et tu es en train de freiner le travail ou freiner la transformation. Tu es simplement en train de t'opposer. Et on ne s'oppose pas à Dieu. On ne s'oppose pas à Dieu. En fait, c'est tellement irrationnel de penser pouvoir s'opposer à Dieu. Dire, je vais rentrer dans l'église, mais moi, je n'accepte pas telle chose. Je rentre dans l'église, mais je n'accepte pas le mariage des cultures. Je rentre dans l'église, mais je n'accepte pas le mariage des origines. Je rentre dans l'église, mais je veux maintenir mon groupuscule ethnique. Je suis juif, je veux maintenir mon association strictement avec les juifs. Je rentre dans l'église, mais je ne veux rien savoir des grecs ou des autres païens. Je viens dans l'église, mais je ne veux rien savoir des grecs, des romains, des parthes ou des ci ou des cela. Je veux simplement me maintenir avec les juifs, purement juifs. Je pourrais rentrer dans l'église et dire, ben moi je me limite simplement à ce qui est purement français. Et actuellement dans notre congrégation, ben il y aurait mes parents, il y aurait probablement, il y aurait ma nièce, puis il y aurait la sœur Soraya. Puis à part ça, je pense que je serais pas mal limité. Est-ce que tu es en période d'adaptation ou tu es tout simplement en train de t'opposer? Est-ce que tu freines le processus de transformation de tes pensées et de tes paradigmes par Dieu? C'est un jeu très dangereux. On ne s'oppose pas à Dieu. On ne s'oppose pas à Dieu. Alors j'espère que cette semaine, à la fin de cette semaine en fait, tu en viens à la conclusion qu'effectivement, l'Évangile a été donné à tous et que nous faisons tous partie d'une seule et même nation, l'Église. D'un seul et même peuple, l'Église. D'une seule et même race, l'Église. L'humanité est constituée de deux seuls groupes. Ceux qui ont reconnu Christ comme leur Seigneur ou leur Sauveur et ceux qui le rejettent. C'est les deux seuls groupes qui existent. C'est les deux seules ethnies qui existent. C'est les deux seuls peuples qui existent. C'est les deux seules races qui existent. Toutes les autres font partie des héritages qu'on avait jadis récupérés d'Adam et Ève, mais qui ont été coupés, anéantis avec la mort de Christ, si du moins on a fait de ce Christ, de ce Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, si tu es en période d'adaptation, adapte-toi bien. Mais ne fais pas tarder l'adaptation pour feindre plutôt, ou en fait pour cacher tout simplement une opposition à Dieu. On ne joue pas avec Dieu et on ne peut pas faire croire quelque chose à Dieu. Il sait exactement ce que nous vivons et il sait exactement ce qui motive nos cœurs. Alors on va prier pour nous tous. Seigneur, merci. Merci pour cette semaine où tu as abordé avec franchise et je crois avec clarté un point important de ton Église. Un vœu important que tu as envers ton Église. Que nous soyons vraiment un rassemblement fusionné et fusionnel de toutes ces personnes qui jadis autrefois représentaient chacun une nation, un peuple, une langue, une ethnie, une culture différente, mais qui aujourd'hui sont rassemblés pour invoquer ton nom sur leur vie respective, mais sur l'ensemble de leur communauté qu'est l'Église. Seigneur, permets-nous d'être des agents de fusion et non pas, Seigneur, des agents qui s'opposent à ton plan de fusion et d'inclusion. Permets-nous, Seigneur, d'être ces instruments de compassion, d'amour et d'unité, et de ne pas cultiver un quelconque esprit de division ou de parti. Nous sommes, Seigneur, qui avons été rachetés par ton sang, tous et chacun partie prenante de ton Église. Alors que nos paroles célèbrent ton Église, que nos gestes célèbrent ton Église, que nos paroles célèbrent la tête de l'Église, le concepteur, le créateur, l'initiateur, l'instigateur de l'Église. Et Seigneur, si tu vois que nous nous opposons de quelque manière que ce soit, parle-nous clairement, Seigneur, parce que nous comprenons le danger de nous opposer à ta volonté. Ton plan, Seigneur, était que tous viennent à la connaissance de Christ, que quiconque croirait serait sauvé, parce que tu nous as aimés. Alors Seigneur, que nous soyons aussi des bons représentants de cette unique vérité. Nous t'avons prié en ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle quelques petits messages importants pour aujourd'hui, pendant que je regarde qui s'est joint à nous. Voilà, je me mets là et je les salue tout à l'heure. Donc, on rappelle, prière ce soir à 19h, de 19h à 20h, donc un temps de prière suivi par rapport à la prédication de dimanche dernier, et par la suite, un temps de requête que vous aurez partagé avec nous. Et après ça, le rendez-vous dimanche pour notre culte régulier, notre culte d'adoration. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche terminent ce matin. Donc, on vous demande dans les minutes qui vont suivre ce moment de bénédiction matinale, appelez si vous ne l'avez pas fait. Les réservations doivent se faire à chaque semaine. Donc, si vous faites partie d'un des trois groupes suivants, vous êtes personne seule, personne célibataire, 55 ans et plus, vous pouvez appeler. Vous êtes en couple, mais simplement un des deux du couple fréquente l'Église. Vous avez 55 ans et plus, vous pouvez appeler. Troisième et dernier groupe, vous êtes un couple qui fréquente tous deux l'Église. Vous avez 65 ans et plus, vous appelez. 65 ans pour au moins un des deux. Donc, si monsieur a 66 ans et madame 62, vous pouvez appeler. Okay? Donc, personne avec un couple avec au moins un représentant qui a plus de 65 ans, vous appelez à l'Église. Je rappelle le numéro 514-273-8295. Je rappelle dans le 514-273-8295. La sœur Patricia va appeler les gens dès ce matin. Donc, dès que la dévotion est terminée, vous commencez à appeler. Si vous voulez le faire maintenant, le téléphone est débranché à côté de moi de toute manière. Donc, vous pouvez appeler pour donner votre nom. C'est très important de le faire ce matin même. Alors, qui s'est joint à nous ce matin depuis le début? Donc, on a eu la sœur Adriana, Dieu vous bénisse. Ramon, Evelyne, Dieu vous bénisse. Denise de Deux Montagnes, bonjour. Laetitia, bonjour. Marcella, bonjour. Mahendra, Elijah, Dieu vous bénisse. Marlène, ma sœur, probablement avec le pasteur Juan Carlos aussi. Bonjour à tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Gaëlle, bonjour. La sœur Flori, le frère Louis, Dieu vous bénisse. La sœur Jocelyne, le frère Jacques, Dieu vous bénisse. Le frère Mereste. Et je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, soyez bénis. Rendez-vous ce soir, 19h, prière et intercession. Et les inscriptions pour l'assemblée de dimanche, tout de suite. Vous appelez et vous laissez votre nom. Vous dites « Je veux » ou « Nous voulons nous inscrire ». Et on vous rappelle dans quelques instants à travers la sœur Patricia. Donc, à vous tous, merci d'avoir été là cette semaine. On se retrouve ce soir pour la prière. Que Dieu vous bénisse tous.